reste dans la Flèche, en Allemagne, à Paris, dans la fameuse église de l'Annonciation. Je l'ai connue là avec Madame Courtial. Merci de votre présence, Madame. J'étais à ce moment-là étudiant en théologie à la faculté de Paris et le RAID a été déterminante pour moi. Ensuite, Pierre Courtial a été le premier doyen fondateur de la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence, tout en étant professeur d'éthique et de théologie pratique, et ce pendant 12 ans. Il a été notamment co-rédacteur de la revue Ictus, et son dernier ouvrage, Le jour des petits recommencements, était sur l'actualité de la parole de Dieu, paru à Lausanne, aux éditions L'Âge d'Homme, cet ouvrage doit être absolument dans votre bibliothèque. M. Courtial va nous parler maintenant du Conseil Trinitaire Éternel à l'Alliance Divino-Humaine Historique. Merci de sa présence qui honore notre pasteur.
Vous n'étiez pas impressionné par les immenses compliments que vous voulez nous faire dans moi que moi. Je suis avant tout et j'ai cherché avant tout à être au long de ma vie un pasteur, c'est-à-dire un dispensateur des mystères de Dieu, le premier de ces mystères de Dieu étant bien sûr Sabbat. Toutes les doctrines théologales, pour autant qu'elles découlent en réalité de la parole écrite de Dieu, comportent à la fois une affirmation et presque aussitôt une autre affirmation qui vient non pas s'opposer à la première, mais la compléter et d'une certaine manière la préciser. Et l'articulation entre la première et la seconde affirmation, c'est toujours le « et cependant ». Une affirmation « et cependant ». « Et ta même »,« Agnès », »,« Outor ». Et c'est ainsi que il nous faut toujours voir ensemble les deux affirmations qui se complètent dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous trouvons là devant deux grandes affirmations de la parole de Dieu. Et il faut bien les distinguer, sans les séparer, et il faut aussi bien les unir, sans les comprendre. Et le malheur vient que très souvent on sépare les deux choses, ou bien qu'au contraire, on les confond. Je le répète, il faut garder toujours cette sorte de devise, distinguer sans séparer et unir sans comprendre. Il y a d'abord ce qui nous est révélé, et d'ailleurs, il ne nous en est pas tellement révélé que ça. Enfin, ça nous est clairement révélé sur certains points. Il y a le Conseil Trinitaire Éternel. Vous comprenez bien que le Conseil Éternel Trinitaire, ce que la Bible nous en révèle, je dirais c'est une goutte dans un océan. Et je dirais que c'est la goutte qui doit nous suffire. Nous devons savoir et maintenir qu'il y a un Conseil Trinitaire Éternel. Et de ce point de vue, il y a les décrets du Dieu Trinitaire, qui est souverain, qui est tout-puissant, et de ces décrets dépendent toujours et partout, selon sa volonté sainte, juste et bonne, toutes les créatures, et en ce sens-là, on peut l'affirmer nettement, Dieu ne change pas. Et amen. Et cependant, ambiet, outdoor, il y a aussi une autre perspective. Alors celle-là nous est révélée beaucoup plus que par quelques gouttes. Celle-là nous est révélée tout au long de l'Écriture. et c'est le point de vue de l'alliance. Au cours de la guerre, dans ses va-et-vient, si j'ose dire, avec les hommes, dans ses rapports personnels et incessants avec les hommes, Dieu ne cesse d'agir de façon diverse et même qui semble se contredire. Et dans ce sens-là, Dieu change. Ça, évidemment, ça nous contrarie. On voudrait une réponse claire. Alors, il change ou il ne change pas? Si on est obligé de dire, il change. Mais il ne change pas. Selon qu'on considère le point de vue des décrets éternels de Dieu, ou l'alliance historique de Dieu. Je dirais que le conseil trinitaire qui siège au-dessus de l'histoire souligne la transcendance de Dieu. Dieu est transcendant. Il règne sur nous verticalement. Tandis que l'alliance divine historique a été établie, s'est poursuivie et continuera à se poursuivre dans l'histoire. Dieu alors nous accompagne horizontalement et c'est son immanence qui est alors soulignée. Et je répète, il faut tenir les deux choses ensemble. Même si, pour notre logique ou notre raison humaine, cela peut sembler contradictoire. Il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune antinomie, il n'y a aucune opposition. Il faut distinguer, se séparer et il faut unir sans confondre. Notre Dieu, le Dieu de la révélation christique et scripturale, est à la fois un Dieu qui, dans ses décrets éternels, ne change pas, et cependant, un Dieu qui, dans l'histoire, change. Je n'énumérerai pas, je les ai là, mais les nombreux exemples dans l'Écriture où Dieu change. Il est même dit que Dieu se repent. Et si certains, hélas, dans l'histoire de l'Église, ont cru devoir opposer la souveraineté de Dieu à la responsabilité humaine, par exemple, ils n'ont pas suivi la vraie tradition théologique de l'Église, avec des noms qui surmontent tous les autres, comme ceux d'Augustin, de Thomas d'Aquin ou de Calvin. Et tout a été résumé dans un article de la Confession de foi de Westminster de 1649. Je vous lis cet article, c'est au chapitre 3 et c'est le premier paragraphe de la Confession de Westminster. De toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement disposer tout ce qui arrive, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, qu'il n'ait pas fait violence à la liberté des créatures, et que la liberté ou contingence des causes secondes n'est pas supprimée, mais qu'elle est bien plutôt établie. Je vous assure que ça fait du bien de temps en temps. Et je crois pouvoir dire vraiment que je le fais certainement plusieurs fois par an, de relire cet article, chapitre 3, paragraphe 1, de la Confession de Westminster. Et d'ailleurs, dès le début, on est un peu surpris, de toute éternité, Dieu a librement et immuablement disposé tout ce qui arrive. Ah, c'est là qu'est la question. Immuablement tout ce qui arrive. C'est déjà pas commode de bien voir ensemble cela. Et c'est important de souligner ici, et je le ferai tout au long de mon exposé de ce matin, la liberté et la responsabilité de l'homme. Le point délicat ici, c'est que dans le monde moderne, issu de la Renaissance, issu des Lumières, lorsque l'on, eh bien, liberté et responsabilité égale autonomie. Tandis que l'homme est libre et responsable, mais il n'est pas autonome. D'ailleurs, il est impossible d'être autonome. L'autonomie, c'est la dépendance. C'est n'être soumis à aucune loi, à aucune contrainte. Et il y a quelqu'un qui n'est soumis à aucune loi ni à aucune contrainte, c'est Dieu. Et Dieu seul est autonome. Les hommes sont libres et responsables, mais pas autonomes. Dieu, lui, est autonome, il est, comme disait Calvin, loi à soi-même. Il est au-dessus des lois qu'il a établies pour les créatures, mais il est cependant loi à soi-même, il n'est donc pas sans loi, mais il est sa propre loi. Et toute créature, de quel corps et de quelque nature qu'elle soit, est placée et demeure sous la loi ou les lois de Dieu. Autrement dit, j'emploie ici un vocabulaire un peu plus philosophique, mais que je crois nécessaire, dans leur futurition, dès l'éternité, comme dans toute la durée de leur existence temporelle. Je répète, dans leur futurition, dès l'éternité, comme dans toute la durée de leur existence temporelle, toutes les créatures, y compris les hommes libres et responsables, dépendent pleinement et toujours du Créateur, Recteur souverain. C'est ce qu'a exprimé le théologien réformé français Le Cerfe, qui a vécu de 1872 à 1943, et dont j'ai eu le grand honneur d'être l'élève, lorsqu'après avoir cité Calvin, que nous avons cité Calvin, vous allez voir ce que dit Le Cerfe. D'abord, la citation que fait Le Cerfe de Calvin. Nous désignons Dieu, maître et modérateur de toutes choses, lequel nous disons, dès le commencement, avoir, selon sa sagesse, déterminé ce qu'il devait faire, et maintenant exécute par sa puissance tout ce qu'il a délibéré. Nous nous concluons que non seulement le ciel et la terre et toute créature insensible sont gouvernées par sa providence, mais aussi les conseils et vouloirs des hommes, de telle sorte qu'ils les mènent tous au but qu'il a proposé. Ça, c'est la citation de Calvin. Et Le Cerfe ajoute cette phrase que je trouve une des plus belles de l'institution. Pour Dieu, il n'y a rien de contingent ni d'incertain, mais il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ainsi donc, la réalité telle que nous la constatons et telle qu'elle est en effet, avec les liens qu'en forme la trame, avec les lacunes, les trous, les déclenchements spontanés qui introduisent la contingence et la liberté, le monde, avec l'ordre de la nature et la diversité infinie de ses changements, l'écoulement toujours nouveau et toujours inattendu de l'histoire, tant dans ces épisodes grandioses que dans la banalité des gestes sans grandeur, avec ces épouvantes indicibles et la douceur immense des nuits étoilées, tout ce qui est en un mot est une pensée éternelle évoqué à l'existence et maintenu au-dessus de l'abîme du néant et dirigé vers sa fin par la puissance de celui qui dit et la chose est, qui commande et se soumet à sa voix. Voilà. D'abord, c'est du bon français, et ensuite, c'est à la fois politique et théologique. À mon sens, je le répète, c'est une des plus belles pages de l'institution. la foi. Ne vous effrayez pas des mots que je prononce, parce que je sais que pour certains d'entre vous, ça ira peut-être pas très bien, mais qu'ils se rassurent, qu'ils attendent. La foi catholique réformée que nous confessons est exposée d'abord, et cela trop de chrétiens dits évangéliques semblent aujourd'hui l'avoir oublié, dans des textes fidèles à l'Écriture sainte, qu'ils aient été élaborés par les conciles de l'Église des premiers siècles, ou qu'ils aient été reçus et ils aient été transmis par celle-ci. Ces textes mettent en lumière les deux dogmes catholiques fondamentaux, à savoir le dogme trinitaire, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le dogme christique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et le Fils éternel incarné, vraiment Dieu et vraiment homme. Et ces textes, qui sont à la fois des confessions de foi, et les textes qui ne sont pas des confessions de foi, mais qui nous ont été transmis, je vais les énumérer. Je ne dis pas que je les énumère tous, mais je crois énumérer les principaux. Il y a le symbole de Nicée-Constantinople. C'est un texte formidable, d'une profondeur indescriptible. Et c'est malheureux que dans beaucoup d'églises réformées, ce texte au culte ne soit jamais prononcé. Et c'est d'autant plus fâcheux, je le dis en passant, que c'est le seul texte vraiment écuménique. Le symbole des apôtres n'a jamais été en usage qu'en Occident. Il n'a pas été en usage en Europe. Tandis que le texte de Nicée-Constantinople a été toujours en usage, tant en Orient qu'en Occident. La seule chose que je regrette, non pas du tout du point de vue théologique, parce que du point de vue théologique, j'incline à penser qu'ils ont eu raison, mais du point de vue historique, je crois qu'ils ont eu tort, c'est de mettre que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Non, le texte est ce qu'il est, il ne faut pas ajouter, comme on l'a fait des siècles plus tard, et du Fils, il faut le dire, il procède du Fils du Père. Ceci, je le répète, théologiquement, je crois bien que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, mais il faut laisser le texte tel qu'il est dans sa bonté. Et j'aimerais qu'au moins une fois par mois, si ce n'est pas le dimanche, le texte de Nicée-Constantinople soit énoncé dans nos églises. C'est le seul texte vraiment écuménique comme confession de la foi. Il n'y en a pas d'autre. Ensuite, il y a le Te Deum, qui est du IVe siècle. Il y a la grande doxologie, le Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et puis la petite doxologie que l'on connaît tous, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera dans les siècles des siècles. Il y a l'acte 4 du Concile de Calcédoine, ça aussi c'est un texte qu'on devrait lire de temps en temps dans nos églises. Et puis il y a le symbole dit d'Athanase, qui est plus difficile à prononcer liturgiquement, mais qui est à connaître dogmatiquement. Le cerf aimait dire, et je voudrais le signaler en passant, qu'il y a deux grands textes de la réforme. Un texte dogmatique, disait-il, l'institution chrétienne de Calvin, et un texte liturgique, le livre de la prière commune de l'Église d'Angleterre, le préambule. Et je crois que ce serait une bonne chose si nous avions une traduction fidèle en français, dans d'autres langues, du préambule, et si on utilisait le préambule. J'entends le prayer book d'origine, parce que le malheureux prayer book, il a subi au cours des siècles des aménagements, des transpositions qui ont fait de ce livre, qui était essentiellement réformé, on pourrait même dire calvinien, un texte qui maintenant, sur certains points, est devenu un peu douteux. Mais le vrai prayer book, il faudrait l'avoir. Parce que dans le pays en cours, vous avez le téléphone. Dans le pays en cours, vous avez la grande et la petite doxologie. Dans le pays en cours, vous avez l'article 4 de 4 étoiles. Donc, je crois qu'il y a une reconstruction à faire. Alors déjà, vous voyez ce que je mets derrière le mot catholique. Mais j'en ai pas fini, vous n'avez pas, je vais y revenir tout à l'heure. Notre foi est ensuite exprimée dans les confessions de foi de la Réformation. Je ne les énumérerai pas tous. Enfin, je signale en passant le catéchisme de Genève qui a été rédigé par Calvin, qui est de 1542 en français, et en latin de 1545. C'est un des rares textes de Calvin qui a été publié en français avant d'être publié en latin. Généralement, les textes de Calvin étaient d'abord écrits en français, en latin, a commencé par l'institution chrétienne, et puis ensuite seulement traduit en français. Il y a le catéchisme de Heidelberg de 1563, la seconde confession jésuitique de 1566, il y a pour nous francophones la Gallicana de 1571, il y a la Belgica, la confession proposée par Guy de Bresse, c'est la guerre martyre, je le dis en passant, c'est de 1571, il y a les canons de Dordrecht de 1619, oui, je dis en passant, vous savez, souvent les catholiques et les orthodoxes se vantent qu'ils ont eu, qu'il y a sept, parce que sept est un chiffre sacré, alors Dieu, il y a sept de grands conciles ecclésiastiques. Mais je dirais que pour nous aussi, il y en a sept. Il y a les six premiers, il n'y a pas le septième qui a introduisé le culte des images héroïques. Il y a les six premiers conciles ecclésiastiques et puis il y a les six autres de Dordrecht. Alors ça fait un sept. Et là, ces textes, il faut ajouter la confession de Westminster de 1749. Ça, c'est spécial, la confession de Westminster. Parce que ça n'a jamais été un texte d'église. C'est pas une église qui a voté la confession de foi de Westminster. Elle a été composée par une assemblée de théologiens qui avait été convoquée par le roi. Et c'est cette commission qui a rédigé non seulement la confession de foi, mais le petit et grand catéchisme. Bon. Mais tout ça, c'est pas une émanation de l'Église. Mais, curieusement, cette confession ministère qui n'émanait pas d'une Église, mais d'une simple assemblée de théologiens, a été adoptée par la suite par des Églises. Et enfin, la plupart des réformés du monde entier, des réformés, confessions du monde entier reconnaissent leur foi dans la confession de Westminster, avec quelquefois certaines petites difficultés, en particulier nous français, nous n'avons jamais pu adopter la doctrine du sabbat telle que l'a définie la confession de Westminster. Enfin, ça c'est une autre histoire, nous n'en parlons pas aujourd'hui, rassurez-vous. Mais je voudrais poursuivre en signalant deux petits points en passant. Premier petit point, à propos de la seconde confession helvétique de 1566. C'est une confession que les églises réformées en France ont reconnue, et en dehors donc, des églises suisses, d'autres églises l'ont reconnue. Et elle a un sous-titre, là aussi, qui va encore vous montrer que quand on voit le mot catholique, je ne suis pas complètement salade. À la seconde confession helvétique, elle a un sous-titre, je vous lis le sous-titre, dans l'édition helvétique de 1566, la traduction française a suivi immédiatement la rédaction latine, et voilà, en 1566, qui était ajouté au titre, exposition de la vraie foi et article catholique de la pure religion chrétienne pour témoigner, c'est-à-dire pour rendre compte, à tout fidèle qu'il persiste, c'est-à-dire qu'il demeure, en l'unité de la vraie et ancienne Église chrétienne et qu'ils ne sont ni semeurs d'aucune nouvelle ou erronée doctrine et par conséquent aussi n'ont rien de commun avec hérésie et secte quelconque. Voilà, quand je dis en quelque sorte réformé, je suis tout à fait dans la ligne de la seconde confession hermétique. Ma seconde petite remarque, c'est sur les canons du synode de Dordrecht. Ah, ces canons de Dordrecht. D'abord, le mot canon a toujours une résonance particulière, mais enfin, on les appelle les canons du synode de Dordrecht, qui sont des règles. Parce que le mot canon en grec veut dire la règle, les règles du synode de Dordrecht. Je rappelle, parce qu'il faut bien le savoir, vous savez, et c'est bon de rappeler, que ce ne sont pas une confession de foi d'ensemble, comme la confession et les catéchismes et la chine dont je viens de parler. Elles ne confessent la foi catholique réformée que sur 5 points particulier pour répondre par des affirmations justes et vraies, fondées sur les Écritures, aux affirmations hérétiques des remonstrants, c'est-à-dire des disciples d'Arminius. Arminius avait plus de 1560 à 1700. Et les textes des remonstrants mettait en cause le conseil trinitaire et les décrets, et donc la divine prédestination. Mais les canons de Dordrecht ne présentent aucunement, comme on l'a dit trop souvent, en particulier en dictionnaire, les 5 points du catholicisme. Ce serait pitoyant si nous pensions que ce sont les canons de Dordrecht qui définissent les 5 points du catholicisme. Ça représente 5 points dans un ensemble du calvinisme qui est bien plus considérable. Parce que ce sont des réponses justes établies sur les Écritures. C'est pour ça que les églises réformées en France vers leur synode d'Alès en 720 les ont adoptées. Mais c'est les 5 réponses de vérité qu'il fallait faire aux affirmations des remonstrants. Mais ce ne sont pas les 5 points du calvinisme. On peut dire, ce sont 5 points du calvinisme. Non, on va dire, ce sont les 5 points du calvinisme. Alors, j'ai employé l'expression la foi catholique réformée. Alors, comme j'aime beaucoup, vous avez peut-être déjà remarqué, les choses précises et définies, je vais essayer de définir et de redéfinir chacun des mots qui composent cette expression elle-même. La foi catholique réformée. Pour moi, la foi catholique réformée, c'est la foi transmise au saint une fois pour toutes. Il ne s'agit pas, bien sûr, de la foi au sens personnel, hein, la fidèle, quoi que j'ai dit tout, la foi par laquelle nous croyons. Mais il s'agit de la fidèle, quoi que j'ai dit tout, de la foi que nous croyons. Par exemple, quand Jésus dit à propos du centurion, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi, ah, il s'agit de la foi personnelle. Mais quand Jude dit qu'il faut combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et qu'il exhorte ses frères bien-aimés à s'édifier sur leur très sainte foi, pour ce que Jude n'invite pas les chrétiens à s'édifier sur leur propre foi personnelle. La très sainte foi, c'est la foi transmise aux saints une fois pour toutes, c'est-à-dire ce que nous avons à croire, ce que Dieu nous donne de croire, je vais même un peu plus loin, ce que Dieu nous ordonne de croire. Alors, voilà déjà pour la foi. Le mot catholique. Alors là, je vais un peu me répéter pour ceux qui nous connaissent. Je m'excuse auprès d'eux. Il y a ici quelques-uns des anciens étudiants. Je leur en demande pardon. Il y a ceux aussi qui ont eu la gentillesse de lire un ou l'autre de mes livres. Alors là, j'essaie d'enfoncer le clou, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Arriver à faire adopter par des protestants le mot catholique, en soutenant qu'il ne faut jamais parler de ceux qu'on appelle catholiques comme catholiques, il faut dire des catholiques romains. Nous, nous ne sommes pas des catholiques romains, nous sommes des catholiques reformés. Vous verrez d'ailleurs pourquoi je dis reformés et non pas réformés. Alors, le mot catholique, quand vous voyez les réformés francophones des 16e et 17e siècle, comme vous l'avez vu dans le sous-titre de la seconde confession de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cœur? Alors, je vais répéter ma définition. J'ai pas de succès, je vous dis. Les protestants veulent tellement s'attacher au monde protestant qu'ils comprennent d'ailleurs tout de travers, comme le musulman. Alors, le mot catholique vient de la juxtaposition de deux mots grecs, kat et holos. Kat, ça veut dire selon, et holos, c'est le tout. Selon le tout. Alors, pourquoi sommes-nous et devons-nous être catholiques? Parce que notre foi doit être selon le tout de la révélation. Évidemment, si vous prenez le mot catholique dans un sens quantitatif, le mot catholique va ou bien selon le tout spatial dire une chose au sens quantitatif, catholique pourrait, on pourrait dire, universel. Ou bien, au sens temporel, pourrait pouvoir dire selon le tout, c'est-à-dire le tout du temps, ce qui est continuel, perpétuel. Et alors, dans ces deux cas, si on prend le mot au sens quantitatif, dire je crois l'Église catholique, c'est dans le symbole de la Paule, je crois la Sainte Église catholique, catholique signifierait ou bien je crois à l'universalité de l'Église, ou bien je crois à la perpétuité de l'Église. Mais vous allez le voir, avec les temps que je vais donner, c'est pas très brillant. Tandis que si on prend le mot au sens qualitatif, qui est le premier sens, le principal sens, le mot catholique signifie selon le tout de la révélation de Dieu, selon le tout de la parole de Dieu. Et c'est seulement dérivé qu'il peut y avoir le sens de universel ou perpétuel. Alors, mon exemple, je vous le donne, c'est celui d'Athanase. Alors, vous savez, je tire mon chapeau à Athanase, je ne vais pas lui brûler un siège parce que je ne suis pas catholique romain, je ne vais pas le prier parce que je ne suis pas catholique romain, et on n'est pas du tout le message. Il a combattu dans les églises le culte des images. Saint-Athanase. Eh bien, Saint-Athanase s'est trouvé pendant toute une partie de sa vie, on l'a dit, solus contra mundum, seul face au monde. Et même, on pourrait dire, il s'est trouvé solus contra ecclesia, parce que l'Église universelle, parlons-en de l'Église universelle, l'Église universelle de l'époque, évêque en tête, tout ce monde, le gentilmonde ecclésial, était devenu arien. Vous savez que Arius était cet hérétique qui niait la divinité de Jésus-Christ. Beaucoup de protestants, d'ailleurs, je le dis en passant, sont ariens. Ils croient que Dieu est Dieu, mais ils ne croient pas du tout que Jésus-Christ soit Dieu. Ils ne croient pas du tout que Jésus-Christ soit le Fils unique venu du Père. Ils ne croient pas du tout que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Incarné pour nous et pour notre salut. Ah, il était seul, Athanase. Mais je dirais que tout seul, face au monde et face à l'Église, c'est lui qui était catholique. Il était seul à croire au tout de l'Écriture qui atteste que Jésus-Christ est bien vraiment Dieu et vraiment homme. Les Ariens, et donc l'Église, ainsi je dis, je crois à la Sainte Église universelle, je suis du mauvais côté. C'est-à-dire que si je suis catholique, je suis avec Athanase. Eh bien, mieux vaut être tout seul ou avec un petit nombre, avec Athanase, que immergé dans l'Église universelle, qui est très souvent d'ailleurs, croit volontiers n'importe quoi pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, je suis catholique, je veux être catholique, je vous demande d'être catholique, et je vous demande de ne pas dire, quand vous dites le symbole de la Paule, je crois la Sainte Église universelle. Bon, trop d'écuménistes seraient très contents si vous disiez ça.
non, je crois la Sainte Église catholique. Qu'il ne faut pas confondre, bien évidemment, avec l'Église romaine. Et d'ailleurs, l'Église romaine, son problème pour être catholique, c'est que c'est pas la question qu'elle ne veut pas croire au tout de la révélation, mais elle veut surtout croire à beaucoup d'autres choses en plus du tout de la révélation. Il y a les protestants qui sont des catholiques par défaut, et il y a les catholiques romains qui sont des catholiques par excès. C'est-à-dire que nous sommes des catholiques normaux. Alors, le mot réformé. Alors, d'abord, je demande un changement dans l'écriture du livre. On écrit réformé, R-E, avec un accent, F-O-R-M-E, avec un accent. Moi, je veux bien garder, il faut garder le second accent. Reformé. Vous savez, en français, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on appelle réformé au sens commun? Un cheval est réformé quand il ne vaut plus qu'il perd. Et il y a des choses qui sont réformées, ça veut dire qu'elles ne sont pas bien, selon le. C'est-à-dire que si l'on prend le mot reformé, alors là, ça prend une chose. C'est pas du tout pareil de dire l'Église reformée ou l'Église réformée. Alors je préfère le mot reformé. Et pour maintenir l'absence de l'accent sur le mot réformé, j'ai dit aussi, je ne dis jamais la réforme. Je peux pas dire le reforme, ça va pas tellement bien, mais en français, on peut très bien dire la reformation. Ça, ça colle. Alors, moi, je vous propose de dire l'Église reformée et parler de la reformation. Mais enfin, au capitaine, rassurez-vous, je vais avoir fini. Il y a le mot protestant. Changement complet de sens. Au 16e siècle, c'est un mot magnifique, parce que c'est formé de deux mots, le mot latin pro, qui veut dire pour, et le mot qui vient d'un verbe latin qui signifie témoigner. Un protestant, c'est un gars, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant qui proteste que, qui atteste que, qui affirme que. C'est-à-dire que dans notre langage actuel, un protestant. Protestant, c'est quelqu'un qui proteste. Quelqu'un qui proteste, c'est quelqu'un qui est contre. On est passé de protester que, qui est le bon usage du 16e siècle, hein. Nous pourrions dire, nous allons protester notre foi. Nous allons attester notre foi. C'est positif. C'est-à-dire que être protestant, c'est justement ne pas pouvoir protester sa foi. C'est vous nous dire, c'est le contraire. Ça veut dire souvent protester contre la foi catholique. Protester contre. Alors qu'on protège contre la foi catholique romaine, dans certains cas, mais protester que, protester pour. C'est ça le présent du mot protestant. Voilà. Alors j'ai un peu parlé trop longuement. Je vais m'arrêter, si vous voulez bien, 5 minutes. D'abord, parce que je suis un vieux bonhomme de 85 ans qui a besoin d'un peu de repos. 5 minutes. Mais ne vous dispersez pas, parce que mon travail dans 5 minutes, je continuerai, si Dieu le veut bien, je vais vous le dire des volontés, hein. Si Dieu le veut, et bien, je continuerai mon exposé. Évidemment, il est question de l'alliance tout au long de la Sainte-Écriture. On peut même dire que la Bible tout entière, nous en reparlerons demain, c'est le texte de l'Alliance, ou c'est le livre de l'Alliance. Au cours des siècles, tout le monde, tous les pères prédisent, tous les conducteurs du Moyen-Âge, tous les réformateurs ont parlé d'alliance, mais en fait, c'est seulement peu à peu que l'alliance a pris vraiment sa place dans la pensée et dans la doctrine de l'Église. Saint-Augustin aimait souligner l'unilatéralité de l'alliance en disant qu'elle était un testamento. L'idée de l'emploi du mot testamento pour désigner l'alliance, qui n'était pas d'ailleurs tellement un terme excellent, enfin, Augustin disait davantage le mot testamento, c'est qu'il montre bien qu'il y a la volonté unilatérale de Dieu dans l'établissement de l'alliance. Un testament, bien, personne d'autre ne peut faire un testament que celui qui le fait. C'est tout à fait unilatéral, un testament. Et alors, il employait aussi un autre mot, latin, le mot pactum, pour désigner qu'il y avait une bilatéralité de l'alliance. Et dans l'histoire de l'Église, malheureusement, on s'est quelquefois battu pour savoir est-ce que l'alliance est unilatérale ou est-ce que l'histoire est bilatérale. Alors, vous comprenez bien que c'est comme l'habitude que j'ai déjà cité, je dis, il n'y a pas de doute que c'est unilatéral. Est-ce la main? Est-ce le fondement? Elle est aussi bilatérale. Elle est unilatérale dans le fait que c'est Dieu qui l'a établi et qui, au long des siècles, la maintient, en ce sens-là, la vie. Mais elle est bilatérale en ce sens qu'il y a, de la part de Dieu, certaines choses, et de la part de l'homme, certaines choses, pour constituer l'alliance. C'est un théologien réformé, Vitius, dont on a récemment publié en anglais La disposition des alliances. C'est un livre tout récent dans sa revendication. Et je dirais, moi je ne connaissais pas Vitius, j'ai eu l'occasion, vous savez, quand j'ai eu l'occasion de sauter dessus, alors là, j'ai sauté sur Vitius et je me suis aperçu que Vitius disait des choses extrêmement différentes. D'abord, il montrait que de la part de Dieu, il y a un, des promesses, deux, des prescriptions, et trois, des avertissements. Ah, c'est important ça. Rappelez-vous ça. Promesses, prescriptions, ordonnances, ou lois, et avertissements. Et de la part des hommes, donc je suis toujours Vitius, il dit qu'il y avait un agrément, c'est-à-dire un oui, l'homme devait dire oui à l'alliance, et accompagnant ce oui, pour que ce oui soit sérieux, oui, tu ajoutes un engagement de foi et d'obéissance. Donc il y a une partie qui décide, qui engage l'alliance et qui maintient l'alliance, c'est Dieu, par des promesses, des prescriptions et des avertissements. Et puis il y a l'homme qui, dans l'alliance, doit dire oui à l'alliance et s'engager dans l'alliance. D'ailleurs, il faut juste préciser, hein, je vous dis un petit peu comment il précisait. Et l'idée, il n'appartient pas à l'homme d'accepter ou de refuser l'alliance, selon son bon plaisir, mais il est tenu de recevoir les promesses. Sinon, il refuse la volonté de Dieu. S'il se moque des prescriptions, c'est qu'il rejette la souveraineté de Dieu. Et s'il ne tient pas compte des avertissements, c'est qu'il nie la justice de Dieu. Ça va loin. Mais vous savez, Vitius, comme tous les grands théologiens du XVIIe siècle, il aimait bien les choses précises. Vous savez, nous sommes dans un monde nominaliste où n'importe qui emploie les mots dans le sens qui lui plaît. C'est dans Alice au pays des merveilles, qui il est parlé d'un singulier personnage qui invente son vocabulaire. Hein? On peut évidemment changer le vocabulaire des mots. À la place de « je vais me promener sous ce beau temps dans un jardin », hein, je peux dire non, au lieu de me promener, je vais combattre, au lieu de dire dans un jardin, je veux dire dans un réfrigérateur, le tout c'est de donner mes propres définitions aux mots que j'emploie. Alors à ce moment-là, personne ne peut vraiment s'entendre. Et c'est comme ça d'ailleurs que le monde moderne veut que tout le monde s'entende. On s'entend évidemment dans le flou. Dans le flou, dans une liste le plus parfait, alors tout le monde s'entend. Alors tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, et pour finir, tout le monde en route pour le paradis. Alors, c'est ça le monde du flou. Tandis que si l'on est, et si l'on se veut catholique, c'est-à-dire fidèle au tout de la révélation, on ne peut pas prendre les mots dans n'importe quel sens. Et Dieu, il est bien précis. Alors là, je me suis permis de mettre les choses. C'est un peu l'enseignement que j'ai reçu de Le Serre. Vous direz que mettre comme ça l'enseignement de Le Serre, c'est un petit discours toi. Or, regardez-vous, je garde pour la mémoire de Le Serre le souvenir le plus beau, et je ne veux pas du tout le caricaturer. Et c'est là où on voit ce qu'il faut distinguer sans le séparer, et ce qu'il faut unir sans le comprendre. Conseil éternel, alliance historique, vous l'avez vu. La volonté décrétive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a décidé, a décrété en son conseil. Et la volonté précétive de Dieu, c'est la volonté, ce que Dieu nous dit qu'il faut faire, par exemple, en ce qui concerne l'alliance, les promesses de Dieu, les prescriptions de Dieu, et les avertissements de Dieu, c'est la volonté précétive de Dieu. Je ne peux pas chercher outre mesure dans la volonté décrétive de Dieu, parce que pour moi, elle est mystérieuse. Je n'en connais que les tout petits bouts et petites gouttes que Dieu a bien voulu m'en donner. Ce qui doit compter pour moi, c'est la volonté précédente de Dieu. Pour faire ce que j'ai à faire, je vais pas essayer de savoir quelle était la volonté décrétive de Dieu. Je ne la sais pas. Je ne la sais que quand elle est arrivée. Évidemment, quand une chose est arrivée, je viens, Dieu l'a voulu. Mais je ne peux pas dire à l'avance, voilà ce que Dieu veut. Veut au sens qu'il l'a décrété, ça doit arriver. Et par contre, c'est la volonté précédente de Dieu qui m'impose. Et bien alors, je ne peux pas mettre en avant la prédestination. Je ne peux pas mettre en avant. La seule chose, c'est que je peux le mettre après la prédestination. S'il m'arrive d'avoir aimé Dieu et commencer à lui obéir, je peux lui dire, c'est pas parce que je suis mieux que les autres, c'est pas parce que je suis autre chose qu'un bon pécheur, c'est simplement parce que Dieu, dans son amour, a bien voulu me prédestiner. Bon, oui. Après coup, comme ça, mais ce qui m'importe, c'est comment est-ce que je me conduis vis-à-vis des termes de la grâce. Autrement dit, pour reprendre ce que dit Nietzsche, c'est est-ce que j'ai refusé ou est-ce que je refuse les promesses de Dieu? Je serai refusé sa bonté. Est-ce que je vais me moquer de ses prescriptions? Je serai rejeté sa souveraineté. Est-ce que je ne vais pas tenir compte de cet avertissement? C'est que je nierai sa justice. Vous voyez, pourquoi il peut être très dangereux de parler trop vite ou trop souvent ou trop en avant de la prédestination? Parce que là, je suis dans le domaine du conseil éternel de Dieu, de sa volonté décrétive. Et ça, c'est le domaine aussi, d'une certaine façon, de l'équipe invisible. Et c'est pourquoi un pasteur, il y a ici un certain nombre de pasteurs, de jeunes pasteurs en particulier, un pasteur ne doit jamais se poser au sujet de quiconque la question est-ce qu'il est prédestiné ou pas. Parce que dans ce domaine-là, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Je ne peux pas faire une église de prédestiné. Ça, c'est l'église invisible. Ce que je peux faire, ce que je dois faire, c'est m'adresser à tous les hommes, et en particulier à mes paroissiens, en respectant le mystère de la volonté déchéquive de Dieu et en voyant ce que tel ou tel peut vraiment, manifestement, faire ou ne pas faire dans des domaines importants. Mais je ne peux rien savoir. Vous savez, il y a même des gens qui sont tellement persuadés d'être sauvés et d'aller au ciel, je ne sais quoi qu'il fasse, qu'il y a vraiment besoin, cela, de les désintoxiquer. Et inversement, il y a des gens qui sont tellement persuadés qu'ils sont damnés. On a vu même, c'est pas une blague, on a vu, ça a été très sollicité d'ailleurs par des hommes, des théologiens remarquables, on a vu des hommes qui finalement vivaient dans l'église, mais pensaient qu'ils étaient, pas partie des prédestinés au salut. Les prédestinés, c'était des bons, eux qui se jugeaient dignes d'être placés parmi les prédestinés. Alors ils pensaient, les malheureux, qu'ils allaient être damnés. Alors le truc, c'est d'avoir estimé au mieux être élu de Dieu et croire qu'on est peut-être bien damné, ou bien être tellement persuadé qu'on est prédestiné de Dieu qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à nous occuper de la prédestination pour définir l'Église. Je dis pour définir. Parce que l'Église est indéfinissable pour les hommes. Qui veut dire avec certitude, celui-ci en est, celui-ci n'en est pas. Il y a Dieu, c'est Dieu seul. Il y a, quand on dit qu'il est invisible, d'ailleurs, on se trompe d'une certaine façon, parce qu'elle n'est pas du tout invisible à Dieu, cette Église-là. Mais c'est Dieu qui l'a connu, Dieu seul. Bon, alors nous avons, excusez-moi, je parle cette fois, bon, mais ça me vient comme ça. Il faut nous dépatouiller avec l'Église visible. Et à l'Église visible, il faut annoncer l'Évangile. Il faut annoncer les promesses de Dieu avec tout l'enthousiasme que nous pouvons. Mais il faut rappeler aussi les formes de Dieu, les commandements de Dieu. Et puis, il faut même aller plus loin. Il faut avertir. Alors là, nous tombons dans une difficulté, c'est la difficulté réelle, d'ailleurs, difficulté réelle. Comment soi-même devons-nous nous estimer, nous croire? Alors, tout dépend évidemment, en un sens, de toute mon espérance, je dois espérer qu'en Jésus-Christ, je suis sauvé. Ah, c'est Dieu. Mais en même temps, je dois chaque jour, dire et redire dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Voilà, il faut savoir ça. Et je crois que c'est une profonde erreur lorsque on vient, nous y reviendrons demain, classer l'Ancien Testament, comme on l'appelle, malheureusement, vous verrez, je vais attaquer l'Ancien Testament demain. J'attaque pour toutes les choses, je suis terrible avec tous les humanages. Et je suis obligé d'attaquer l'Ancien Testament parce que je trouve des termes terribles, enfin, sans parler. Alors, il faut que je veille à ne pas penser que la Bible venue des Juifs, c'est une Bible douteuse, d'une certaine manière. Parce que Dieu, là, il fait passer sa loi avant sa grâce. C'est très mauvais, ça. Nous, nous aimons tellement qu'il fasse passer sa grâce et qu'il esquive, qu'il mette de côté de mon corps. C'est le problème. Mais nous avons cette appréciation. terrible. De penser que dans le Nouveau Testament, on a affaire, vous savez, des tas de gens qui sont, martionniers, sans le savoir. Martion, c'est bien un hérétique incroyable. Il avait trouvé le moyen de se faire sa Bible elle-même. D'abord, premièrement, l'Ancien Testament au rebut. Alors, il arrivait au Nouveau. Alors, au Nouveau, il voyait que les évangiles, dans l'ensemble, c'était quand même pas tellement brillant. Il y avait des paroles de Jésus, malheur à vous, hypocrite, et etc. C'est l'Ancien Testament, c'est vrai. Alors, il y avait Paul, parce que Paul, lui, il s'appelle plus en disant Paul. Alors, petit à petit, la Bible de Martion, elle devait pouvoir tenir, sans exagération, sur une feuille de papier. Il avait réécrit la Bible complètement. Alors, nous ne sommes pas martionniques à ce degré-là. Nous avons une tendance martionnique. Pour Martion, il y avait le Dieu de l'Ancien Testament, le Démiurge, créateur, la matière. Et puis il y avait, soi-disant, le Nouveau Testament, il disait qu'il croyait pour à l'Ancien, il voulait croire au Nouveau, et alors le Nouveau Testament, c'était quelque chose de merveilleux. Les gens actuels croient que c'est ça, le christianisme, bien sûr. Que le monde il est bon, que le monde il est gentil, nous irons tous au paradis. Voilà. Alors évidemment, c'est pas vrai. J'ai fait une fois une expérience, c'était de demander aux étudiants, je ne sais pas quelle année peut-être, d'ici là, quelqu'un était, de faire une liste, d'essayer de briser une liste des passages du Nouveau Testament qui sont dus. Je vous assure que c'est long. Et si on prend les églises, il ne s'agit pas des synagogues, des juifs, ou non, il s'agit des églises chrétiennes. Prenez les lettres aux sept églises, au début de l'Apocalypse. Mais prenez même ce que l'apôtre Paul peut décrire aux Corinthiens. C'est pas terrible. Alors c'est là où nous devons rétablir la situation. L'alliance, depuis la création d'Adam, jusqu'à la fin de l'histoire, l'alliance de la part de Dieu, ce sont des promesses, des prescriptions, des avertissements. Et il y a toujours des avertissements. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous trouvez des avertissements pour le peuple de Dieu, et qui ne sont pas du tout plus modérés que les avertissements que Dieu a pu donner à un certain moment au temps d'Israël. Alors, j'attire votre attention là-dessus. Il y a une seule alliance. De la création d'Adam. Je dis de la création d'Adam parce que on parle quelquefois, c'est terrible, de l'alliance des hommes. Comme si Dieu, dans un premier moment, avait pu proposer aux hommes une théologie qui soit à la fois pélagienne, qui soit erronée au départ, l'alliance des hommes. Adam, tu vas être sauvé, tu vas accomplir des œuvres. Pas du tout. Avant la chute, si vous regardez de près, Dieu donne des promesses à Adam. Il lui donne des commandements. Et il lui donne des avertissements. L'alliance, je dirais, elle est de grâce, déjà. Vous direz, mais quand même, Adam était sans péché. Oui, Adam était sans péché, d'abord, il n'a pas été longtemps. Il n'a pas été longtemps. Mais même à supposer que ça a duré plus d'un jour, ça se discute. Discuter si ça a duré plus d'un jour. Eh bien, même si ça a duré plus d'un jour, tout ce qu'il avait, il le tenait de la bienveillance de Dieu, il le tenait de la grâce de Dieu, il le tenait de l'amour de Dieu, et qu'est-ce que Dieu lui demandait? Il lui demandait la foi, il lui demandait l'espérance, il lui demandait l'amour. Et au fond, ce qui est remarquable, c'est qu'au péché d'Adam, Dieu aurait pu répondre, non, terminé, j'ai compris, j'annule tout. Pas du tout. Il est allé chercher Adam et Ève qui se cachaient dans les arbres du jardin, qui se cachaient. Il y a encore de l'innocence de croire qu'on peut se cacher de Dieu. On peut commencer au poème de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe, mais regardez bien là. Oh, là, Dieu est présent, même auprès d'Adam et d'Ève après la chute. Et il vient leur donner un évangile. Il les réconforte. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ah, il leur dit quelque chose de merveilleux. D'abord, il leur promet une descendance, et Ève sera effectivement la mère des vivants. Ève, ça veut dire vie. Elle sera la mère des vivants, elle. Et ils ont une promesse formidable. Un jour, dans la descendance de la femme, quelqu'un se lèvera et écrasera la tête du serpent. Oh, le serpent ne mourra, ça fait rien. C'est Dieu qui annonce l'évangile à Adam et à Ève. Et vous avez ensuite toute la descendance d'Adam par Seth, de Sédic, qui descend de d'Adam par Seth, et vous avez aussi le Caïnite. Alors là, ça finira mal, parce que tôt ou tard, les enfants de la ligne Sédic jetteront des regards convoiteux sur les femmes de la descendance Caïnite. D'ailleurs, ça fait toujours penser le regard convoiteux. C'est la même chose. Déjà, regardez Ève et Adam. Ève est là. Elle trouvait pas mal quand même ce fruit. Elle commence à le convoiter déjà avant même d'y avoir touché. Et Dieu a interdit d'en voir toucher, mais il a interdit d'en manger. Alors vous trouvez déjà tout dans l'histoire d'Adam et Ève avant la chute. L'alliance est déjà là. Et Dieu maintient son alliance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il maintient son alliance? C'est que Dieu, qui avait dans son alliance une humanité intègre en Adam et Ève, il veut bien prendre dans son alliance des pauvres pécheurs. C'est pour nous, ça. Dieu veut bien prendre dans son alliance des pauvres pécheurs. On a envie de chanter Alléluia. Merci Seigneur. Quand il a pris Adam et Ève, il avait dans son alliance. Bien sûr, tout ce qu'il leur a dit, tout ce qu'il leur a promis, tout ce qu'il leur a demandé, tout ce qu'il les avait dit, il a pris un homme et une femme intègre. Alors, Dieu veut bien dans son alliance les pauvres pécheurs. Il me veut bien dans son alliance. Ce monde-là, il me demande en même temps, dans son alliance, de prendre conscience de sa volonté préceptive et des termes de l'alliance. Et comme pasteur, comme responsable visible, c'est l'Église visible qui va nous faire. Il ne faut pas nous réfugier dans les lignes. Il faut espérer en être, il faut désirer en être, mais c'est l'Église visible. De même que je pleure sur moi-même, je pleure actuellement sur la situation de l'Église visible dans mon pays. Oui, c'est pas parce qu'un pape l'a dit que c'est trop. Il y a des gens qui sont figurés avec les papes. Il leur arrive de dire des choses justes. Et il est arrivé au pape de dire des choses justes quand il a dit France, qu'as-tu fait de ton baptême? Mais on peut lui dire, pour chacun de nous, quel que soit notre nom, Antoine, Alice, peu importe, moi j'ai Pierre. Pierre, qu'as-tu fait pour ma tête? Qu'as-tu fait pour ma tête? Tu es dans l'alliance. Je t'ai accepté, toi pauvre pécheur, dans mon alliance. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors donc, vous voyez, je termine par là. Je suis obligé d'abréger parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. L'alliance, c'est à la fois une terre de lumière et je dirais en même temps, c'est une terre qui a ce qu'il faut pour nous inquiéter. Vous savez, il y a eu un courant au XVIIIe siècle dans les églises d'Europe qu'on appelait le piétisme.
Il y avait à l'origine Madame Bouillon, je ne m'étendrai pas trop longtemps à son sujet, et puis il y avait Fénelon qui était le piétisme.
Il ne faut pas être piétiste, de toute manière, il ne faut pas être piétiste. Il faut que nous soyons tourmentés, dans un bon sens, bien sûr. Il faut être tourmenté par l'exigence de Dieu sur nous, par l'appel de Dieu sur nous. Un chrétien qui est, ça risque de ne pas être un très bon chrétien. Et en même temps que je dis ça, je sais que d'une certaine façon, on pourrait dire aussi l'inverse. Mais c'est parce qu'il faut penser au complémentaire. Vous savez que c'est saint Augustin qui disait « Mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Alors, c'est vrai ça. Oui, notre cœur doit être inquiet jusqu'à ce qu'il repose en lui. Et on peut dire à notre conversion, dans nos moments de fidélité, de foi, d'espérance, nous sommes dans un repos, d'une certaine façon. Nous nous reposons vraiment en comptant sur Dieu. Mais en même temps, je dirais, il faut se méfier de la quiétude. Je veux bien, je dois même me reposer en Dieu, à condition que je revienne en lui, que je me repose, et pas trop sur ma situation personnelle. Si je me repose en Dieu, ça va. Mais si je me repose en me considérant moi-même, c'est affreux, c'est affolant. Alors, il y a ça. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui est employé, l'équilibre. Alors, il y a l'équilibre qui peut être pris dans le sens mauvais. L'équilibre, d'abord, c'est le péché. Mais, en un autre sens, nous avons besoin d'équilibre. Mon pasteur, pendant longtemps, le pasteur Bevenner, dans notre paroisse de Paris, il a fait un livre qui a un titre que je trouve magnifique, « Dieu, l'éternel tourment des hommes ». Heureux ceux qui sont tourmentés par Dieu. Et il faut, Dieu est notre éternel tourment. Il n'est pas que cela, mais il doit être aussi cela. Quel est le rapport entre l'alliance et l'Église? Évidemment, certainement, il y a un rapport entre l'alliance et l'Église invisible. Pierre Marcel, dans son livre sur le baptême, sacrement de l'alliance de grâce, dit que l'alliance est le lieu, la pépinière où sont formés les habitants de l'Église invisible. Et je crois qu'il y a une très belle idée dans cette idée de Pierre Marcel. Dieu aime recruter des membres de son Église invisible dans l'alliance historique. Ah, il n'y a pas que des élus dans l'alliance. Ce n'était pas possible qu'il n'y ait que des élus dans l'alliance. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Tout ce que la Bible nous raconte de l'alliance dans la Bible des Juifs comme dans la tradition des apôtres, partout tout au long de la Bible, ça y est. Mais cependant, l'alliance historique a à voir avec l'Église. Parce que dans l'histoire de l'alliance, déjà dans la Bible, il y a des hauts et des bas. En un sens, l'alliance progresse
depuis le commencement, le proton jusqu'à la fin, le résultat, il y a un progrès là-dedans. Mais ce n'est pas un progrès rectiligne, ce n'est pas un progrès continu. Ça progresse, mais ça progresse avec des retombées, et puis avec des renouveaux, et puis de nouvelles retombées. Et même dans la vie d'un homme, quelquefois c'est arrivé ça, qu'il y ait des retombées et des reprises. Mais, je dirais, il y a un mouvement historique tout au long de l'Alliance. Avec Dieu qui dit la vie des membres de son Alliance, les attrape, les prend à partie, les tourmente quelquefois même violemment pour qu'ils se reprennent. Et Dieu change. Ça, c'est le côté historique de l'Alliance. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons le souci de l'Église. Calvin allait très loin, il disait que l'Église visible devait être notre mère. Et on pourrait là faire tout un tableau. Est-ce que l'Église visible est toujours notre mère? Est-ce que nous, dans notre Église visible, nous aidons notre Église visible à être notre mère? Quelquefois, l'Église visible devient hélas une mère au lieu d'être une mère. Une mauvaise mère, une fausse mère. Et cependant, elle t'amène toujours. Et cependant, cette Église qui est notre marâtre, si elle est marâtre, c'est peut-être aussi de notre faute. Et nous devons tendre, pasteurs ou fidèles, hommes ou femmes, nous devons tendre à ce que l'Église soit toujours maternelle. Il y a des cas où on est obligé de non seulement d'attraper, mais après plusieurs avertissements, on est même obligé de se séparer. Ça peut arriver, on est obligé de se séparer, on peut pas, il faut que l'Église se sépare. Mais même lorsqu'il semble que l'Église se sépare de quelqu'un, il faut que ce soit avec un amour maternel qui va poursuivre la prière pour celui dont on se sépare. Parce que la séparation n'est pas faite pour exclure, la séparation n'est faite que pour réinclure et pour mieux inclure. Quand l'Église maternelle excommunique, il faut que ce soit dans l'espérance de la réintégration. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Jésus a donné la parabole du Fils. Le Père, il a été meurtri par ses deux fils, celui qui est parti comme celui qui est resté. Parce que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment compris ce que c'était qu'être fils. Il n'y en a qu'un qui a compris vraiment ce que c'était qu'être fils. Ça lui a coûté vraiment cher. Il a été vraiment fils. Mais ce qui est magnifique dans cette parabole, c'est quand il nous est dit que le Père, je dirais, ça ne va pas avec l'Église, parce que l'Église lui-même, peu importe. Et pour que l'Église soit maternelle, au sens où le Père paternel a couru à la rencontre de son Fils qui était parti. Et il a ordonné la fête. Et la fête. Et il fallait tuer le beau grand. Et il fallait se réjouir. Et il fallait danser. Parce que le Fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était parti, il est là. Alors c'est la fête. Il y a des imbéciles de frères aînés qui ne comprenaient rien. Et qui, au lieu de se réjouir, grommelait, alors qu'il avait toujours été dans la maison, qu'il avait été aimé. Soyons du côté de l'Église paternelle, qui sait être sévère, quelquefois. Parce que c'est la sévérité, c'est la bonne forme de la maternité que je... En tant qu'être père ou mère dans une famille, où ça veut dire ne jamais faire, ni en jamais. On est obligé. C'est un de mes de mes anciens étudiants qui me rappelaient une histoire de ce genre hier soir au cours du dîner. C'est comme ça. Voilà. Alors j'ai terminé. Je vous donne rendez-vous au demain. Je vous remercie de votre attention. Vous savez, si j'ai employé à un moment donné une femme ou une phrase qui vous ont heurté, demandez-vous d'abord est-ce que j'ai bien entendu la phrase ou le mot dans le sens que j'avais prononcé, et puis en admettant, que je me sois trompé, eh bien, pardonnez-moi. Parce que le propre aussi dans l'Église, c'est qu'on sache se pardonner les uns aux autres, s'exhorter les uns aux autres, et puis ensemble avancer dans l'alliance jusqu'au jour où nous contemplerons celui qui a établi l'alliance et qui nous attend avec ses bras paternels. Thank you.